C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Alors voilà l'un des jeux dont vous allez entendre le plus parler. Ce jeu, c'est Seven Wonders Architect. Dans Seven Wonders, vous deviez construire une merveille, mais c'était un petit peu imagé. Dans Seven Wonders Architect, vous allez vraiment la construire, cette merveille. Elle va être devant vous. Seven Wonders Architect est le nouveau jeu d'Antoine Boza, qui sort avec moi d'ici quelques minutes. C'est superbement édité par Repos Prod. Toutes les merveilles sont dans un petit écrin, le tout illustré par Étienne Ebinger. Seven Wonders Architect est une version familiale de Seven Wonders, mais avec une mécanique différente et du matériel différent. Chaque joueur va choisir sa merveille. Moi, je vais prendre par exemple le phare d'Alexandrie, une merveille en forme de puzzle avec 5 pièces que vous allez devoir construire. Cette merveille est recto verso. D'un côté, c'est un peu l'échafaudage, le chantier normal, elle est en construction. Et de l'autre, elle est sublime, elle est construite, elle vous donne des points de victoire. Il faudra donc la retourner au fur et à mesure. Et dès que l'un des joueurs a construit entièrement sa merveille, la partie s'arrête et on compte les points. Alors chaque joueur a un petit présentoir avec des cartes qu'il placera entre lui et le joueur d'à côté. Il y a également des cartes neutres que l'on mettra au milieu pour tous les joueurs. A votre tour, vous avez donc le choix, soit vous prenez la première carte de votre voisin de gauche, soit celle de votre voisin de droite, ou sinon, vous piochez une carte au centre, mais là, vous ne la voyez pas, à moins d'avoir cracotte, le pion chat, pas le chat de la voisine, encore que vous pouvez jouer avec sur les genoux, mais c'est pas super pratique. Bref, le pion chat qui vous permet de regarder discrètement la première carte de la pioche. Une fois que vous avez récupéré une carte, vous la posez devant vous, et faites l'effet si nécessaire. Voilà, c'est tout. Et puis, c'est à votre voisin de jouer. Il y a 5 types de cartes. Les rouges, ce sont les cartes militaires. Elles vont comporter un ou plusieurs boucliers. Les bleus, ce sont des points de victoire. Les vertes proposent des symboles scientifiques. Et comme dans le jeu de base, il faut des ressources. Ce sont les cartes grises. C'est notamment grâce à ces ressources, le bois, la brique, la pierre, que vous allez pouvoir construire votre merveille. Enfin, les cartes jaunes, elles auront des pièces pour remplacer n'importe quelle ressource. C'est un petit peu un joker. Alors pour pouvoir retourner une pièce du puzzle de la merveille, il faut donner parfois des ressources différentes ou parfois identiques. Tout dépend de la partie de la merveille qui est en train d'être construite. Un artisan qui construit une maison ne commence pas par le toit. Automatiquement, il faudra commencer par la base de la merveille et petit à petit, vous verrez quelles pièces sont disponibles à la construction. De toute façon, dès que vous avez les ressources nécessaires, vous êtes obligé de construire. On ne peut pas dire « je vais attendre », les chantiers n'attendent pas. Les ouvriers sont là, ils se mettent au boulot. On ne remet pas à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Alors comme dans le Seven Wonders classique, il y a les jetons progrès qui vous donnent des bonus et que vous pouvez obtenir si vous avez 2 symboles identiques ou 3 différents sur vos cartes. Vous en prenez un parmi les 3 visibles ou celui de la pioche. Un Seven Wonders ne serait pas un Seven Wonders sans les actions militaires. Alors en début de partie, vous avez posé au centre de la table 3 jetons. Quand vous avez récupéré les cartes rouges, vous avez des boucliers accompagnés d'un ou plusieurs corps. Vous devez retourner ces jetons sur leur face conflit en faisant le bruit de l'instrument. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Quand tous les jetons sont retournés, c'est l'heure de la bataille. Et puis, eh bien, pour tous les joueurs. Alors, et pour gagner la bataille, il faut compter votre nombre de boucliers. Si vous en avez plus que votre voisin de gauche, vous gagnez. Si vous en avez plus que celui de droite, vous gagnez aussi. À chaque victoire, vous prenez un jeton militaire. En revanche, si vous en avez moins que votre ou vos voisins, c'est là où il y a défaite, malheureusement, et vous repartez bredouille. Il ne vous reste plus qu'à faire revenir la paix en retournant les jetons sur leur face colombe. N'oubliez pas de défausser les cartes aussi avec les icônes corps. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'un joueur a fini sa merveille, la partie s'arrête. Il ne reste plus qu'à compter les points. Les points de la merveille, bien sûr, mais aussi les cartes bleues, les points de victoire militaire, les jetons progrès, sans oublier le petit chat, s'il est en votre possession. Il vous rapportera 2 points. Je me disais que j'avais bien fait de l'adopter, ce petit chat. Allez, Seven Wonders Architect est un jeu pour 2 à 7 joueurs. C'est un jeu qui deviendra certainement une référence. Antoine Boza a réussi à réinventer le jeu pour le rendre familial, tout en gardant l'esprit. On en parle dans 3 minutes avec lui. Juste après Grand Corps Malade et nos plus belles années sur Millennium.
C'est Ludique, l'invité de la semaine.
Et mon invité cette semaine, pour la première fois, c'est Antoine Boza. Bonjour Antoine.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Et merci ce matin d'être dans C'est Ludique. Alors, t'es assez discret sur les réseaux sociaux, mais l'arrivée de tes jeux, j'ai l'impression aussi, puisque ce Seven Wonders Architect est arrivé sans que personne ne s'y attendait. Et en plus, il est sorti rapidement après l'annonce, ce qui est actuellement un miracle avec les conditions de transport. Depuis combien de temps tu bossais dessus ?
Écoute, c'était 4 ans de travail hein, entre la première idée et la fin du réglage, on va dire, du prototype.
D'accord. Il n'y a jamais vraiment eu de promo ?
Non, c'était vraiment une volonté de l'éditeur Opoproduction d'annoncer le jeu vraiment juste avant la sortie.
D'accord.
Voilà, notamment pour être bien sûr, effectivement, comme tu le disais, d'avoir bien reçu toutes les boîtes vu le contexte et pas faire un effet pétard mouillé de finalement on est désolé, en fait on n'a pas reçu les boîtes donc ce qu'on vous avait dit c'était une bêtise.
D'accord.
Donc il y avait vraiment cette volonté là d'avoir déjà les boîtes et effectivement de pas de créer cette attente pendant plusieurs mois comme ça se fait souvent en jeu ou ailleurs. Entre la première annonce et la sortie effective du produit. Quoi.
T'avais envie de faire un Seven Wonders familial, une porte d'entrée dans le jeu moderne, un peu comme les aventuriers du rail ?
Ouais, clairement, en fait, avec toutes les années où j'ai rencontré du public sur Seven Wonders, j'ai eu énormément de gens en fait, qui venaient me dire qu'ils avaient commencé et découvert le jeu de société moderne avec Seven Wonders et j'étais souvent surpris parce que c'est encore un jeu que j'estime compliqué et pas forcément très accessible. Et voilà, moi depuis quelques années que je joue beaucoup plus en famille, plus qu'avec des copains gamers, et ben du coup c'est vrai que j'ai plus envie de faire des jeux très accessibles. Et c'est un peu comme ça qu'est né ce projet-là, quoi. Vraiment faire un vrai jeu d'entrée pour les gens qui voudraient découvrir, qui soit vraiment, on va dire, beaucoup plus accessible que le Seven Wonders grand frère. Quoi.
Ouais, alors le gameplay est génial hein, avec la construction de la merveille. T'as voulu simplifier les actions, mais en gardant l'esprit hein, de Seven Wonders. Est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu même intergénérationnel hein ? On peut y jouer avec la grand-mère, on peut y jouer avec le petit, on peut y jouer à partir de 8 ans au niveau des enfants.
Oui, c'est ça, voire même un peu plus bas, hein, s'ils ont déjà joué un peu, je pense. Mais oui, c'était vraiment l'objectif, hein, c'est de pouvoir jouer avec tout le monde. Ça a été testé avec mes parents et on va dire des générations d'avant et avec des enfants aussi. Et ouais, la volonté qui est derrière, c'est vraiment de pouvoir faire jouer un nombre de gens, et effectivement des gens qui ont peut-être joué une fois, tu vois, au Monopoly dans leur vie et qui avaient joué à rien d'autre depuis, quoi.
C'est ça. Garder l'esprit d'un jeu et le rendre familial, hein, c'est pas évident, surtout lorsqu'on connaît hein, le succès de Seven Wonders.
Ouais, c'est un vrai challenge. Hein. C'est aussi pour ça que ça arrive assez longtemps après le premier. On est 10 ans après la sortie de Seven. Il y a eu 4 ans de travail qui n'était pas du travail à temps plein, hein, qui était de la réflexion sur quel est le meilleur, on va dire, angle d'attaque pour proposer à la fois un jeu très accessible, mais garder, comme tu disais, l'esprit de Seven Wonders. Quand on construit toujours les merveilles, il y a toujours les ressources et les couleurs emblématiques du jeu. Donc tout ça, effectivement, ça a pris du temps parce que faire simple, c'est souvent très compliqué.
et dans Seven Wonders Architect, quand tu l'as conçu, qu'est-ce que, pour toi, fallait enlever pour rendre ce jeu familial ?
Oh, il y avait plusieurs choses. Je voulais enlever un maximum de mathématiques, notamment le calcul de la science dans le grand frère qui est un peu compliqué. Je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de gens, notamment dans les gens pas habitués à jouer, qui avaient du mal avec la gestion de ressources, en fait. Le fait que des ressources posées sur la table, tu puisses les utiliser chaque tour.
Ouais.
Et que tu les dépensais pas, en fait, ça posait souci. Donc c'est pour ça que dans Architect, quand tu veux construire quelque chose, tu jettes les ressources, tu les dépenses. Donc il y a eu ça comme simplification, et un des gros points qui coinçait dans Seven Wonders, c'était le fait d'utiliser les cartes de plusieurs façons aussi, que tu puisses l'acheter pour prendre de l'argent, ou la glisser sous ta merveille pour construire. Ça c'est un truc qui, avec les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, était vraiment un obstacle. Quoi. Ils avaient du mal à percevoir qu'une carte puisse avoir un autre effet que ce qui est imprimé dessus. En fait. Tu vois, construire la merveille avec, c'était vraiment, les gens qui n'avaient pas l'habitude, ils étaient complètement perdus avec cette règle. Donc on va dire que c'était les trois gros axes de réflexion. Quoi.
Alors justement, la merveille prend une place très importante dans Architect. C'était pas le cas finalement dans Seven Wonders ou même dans Duel. Cet aspect puzzle est arrivé vite dans la conception du jeu.
Ouais, tout à fait. Hein. C'était même un des points de départ. Je voulais vraiment la représenter, on va dire, un peu plus, la mettre plus en valeur physiquement, quoi, matériellement. Parce que comme tu l'as dit, dans les autres jeux, finalement, elle est presque secondaire. C'est plus des jeux de construction de cartes et de bâtiments avec une merveille. Là, elle est vraiment au cœur du jeu. Donc, il y avait vraiment cette volonté. Et du coup, la mettre en scène avec un matériel qui fasse envie. Donc, ces petites formes de puzzle, c'était une des idées de départ. Hein.
D'accord, donc c'est vraiment parti de là, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais.
Autre chose aussi, il n'y a plus de draft. Alors, c'est un mot compliqué pour les non-joueurs. Là, on n'a pas de carte en main, on pioche une carte, on la pose et puis tout le monde piche, quoi.
Oui, pareil, à nouveau, c'est de la digestion de Seven Wonders où le draft, les gens qui jouent beaucoup, ils ont l'habitude et ça pose pas de soucis. Mais notamment, avoir des cartes en main et réfléchir à une stratégie, quand tu joues avec des jeunes enfants, c'est compliqué en fait, de gérer sa main de carte, de regarder tout ce qu'il y a dans sa main et puis comprendre qu'il faut jouer telle carte parce que sur la table, à un autre endroit, on a déjà des choses. Donc il y avait vraiment l'idée de libérer les mains et pas avoir de matériel en main pour pouvoir... être plus présent, avoir toute son attention sur la table de jeu, en fait.
Et puis, c'est une course aussi, là, puisque celui qui finit sa merveille met fin à la partie.
Oui, il y a cet aspect course. Alors, pendant très longtemps, il y avait deux conditions d'arrêt. Il y avait la fin de la merveille et un nombre de conflits militaires déterminés.
D'accord.
Et puis, à nouveau, lors des derniers tests avec l'éditeur, deux conditions d'arrêt. On s'est aperçu que c'était sans doute une de trop, surtout pour le public qu'on visait. Et puis, comme il y avait cette volonté de dire c'est quand même un jeu sur les sept merveilles, ça paraissait être le bon choix de réduire à une seule condition de victoire le premier, d'arrêt en fait, hein, parce que tu gagnes pas forcément la partie quand tu termines, même si ça te donne de bonnes chances. Mais voilà, visuellement en fait, ça permet de suivre la partie. On voit que quelqu'un va terminer, on sait que la fin de partie est proche. C'est l'information est facile à percevoir pour tous les joueurs.
Alors le travail d'édition est magnifique aussi, avec chaque merveille qui a son écrin. Est-ce que c'est ton idée de rendre le jeu aussi sublime ou c'est repos?
L'idée des écrans, non, ça c'est vraiment le travail éditorial. Alors sachant que je l'avais un peu préparé moi dans mon prototype, en fait j'avais fait des enveloppes.
D'accord.
Donc, j'avais des espèces de petites enveloppes avec les étiquettes et dedans j'avais mis, je mettais les 5 morceaux de merveilles puisqu'elles sont en 5 morceaux et le petit deck de cartes. Et en fait on a beaucoup travaillé sur ce petit deck qu'on place entre les deux joueurs. On s'est pris la tête pendant très longtemps à savoir est-ce qu'on le mettait face cachée et qu'on retournait la première carte, est-ce qu'on le mettait face visible.
D'accord.
Pour pas qu'il y ait la manipulation, mais face visible, du coup, ça bougeait, tu voyais des cartes dessous, donc tu pouvais tricher volontairement ou pas. Et donc, c'est à partir de là que Ropo a pris la décision de dire, on va les mettre face visible parce qu'on veut pas qu'il y ait trop de manipulation. Mais par contre, on va mettre des petits sabots pour pas que les cartes se promènent et tombent sur la table. Et à partir du petit sabot, ils se sont dit, tant qu'à faire, ça va pas rentrer dans une enveloppe comme dans le prototype. On va faire des petites boîtes. Comme ça, au début, tu distribues les boîtes au hasard où chacun choisit sa boîte. Ça permettait de mettre l'aide de jeu de chaque merveille en sticker sur la boîte. Donc, c'était une chouette solution.
Et puis c'est pratique parce que peu importe qu'on range la boîte à plat ou sur le côté, au moins il y a rien qui tombe.
Ouais, a priori c'est bien, la boîte est bien remplie, du coup il y a pas trop, ça doit pas trop bouger si tu se coupes à la boîte normalement, ça se passe bien.
Il y a 12 ans, je pense que tu ne t'attendais pas à un tel succès pour Seven Wonders. Aujourd'hui, tu sais que Architect va cartonner. Les retours sont super bons, aussi bien des joueurs gamers que des joueurs occasionnels.
Oui, on a des super retours, notamment des boutiques. C'est ça qui est vraiment intéressant, parce qu'à nouveau, tu vois, on sait qu'on tient un jeu qu'on a vraiment testé pendant très très longtemps. Mmh. On a eu très bons retours, donc on n'est pas inquiet. Hein, ça serait mentir de dire qu'on est inquiet sur l'accueil du jeu. Le fait est que c'est quand même un jeu très grand public et tous les premiers retours sur Internet, les sites spécialisés et tout, c'est quand même des retours de joueurs, quoi, qui sont pas spécialement la cible première. Par contre, on a eu un super accueil quand le jeu a été présenté aux boutiques. Il y avait vraiment un effet chaînon manquant de, effectivement, on vend Seven Wonders, mais quand il y a des gens qui arrivent et qu'on jouait qu'au Monopoly ou qu'à Double, pas leur vendre Seven Wonders, ils vont se casser les dents dessus. Et du coup, il y avait un côté, ça vient compléter la gamme, selon eux, de manière parfaite, quoi.
Il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est qu'on peut y jouer à deux à celui-là.
Ouais, tout à fait. Ouais, on a quand même gardé. C'était beaucoup de travail. En fait, il y a quand même beaucoup de matériel. Donc, à un moment, il y a eu la question de savoir est-ce qu'on le laissait jusqu'à 7 joueurs.
Ouais.
Mais du coup, on pouvait pas faire un jeu sur les 7 merveilles et qui que 5 merveilles ou qu'on joue qu'à 5 dedans. Donc, il y a vraiment eu cette réflexion sur le nombre de joueurs. Et comme la règle à deux demande qu'une toute petite variante au niveau militaire, on l'a quand même conservée, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de règles, donc on s'est dit tant qu'à faire, le jeu reste intéressant à deux parce qu'il est quand même bien tendu en face à face.
Ah, c'est clair.
Il y a une toute petite règle à changer, donc clairement on s'est dit on laisse l'éventail complet de 2 à 7. Quoi.
Alors le marché du jeu a changé, est-ce que toi t'as changé ta façon de faire des jeux ?
Ouais, alors ma façon c'est plus, moi je fais beaucoup moins de jeux qu'avant en fait. J'ai vraiment cette réflexion de il y a énormément de jeux qui sortent Et du coup, quand je bosse sur un prototype, je me pose la question beaucoup plus tôt de savoir est-ce que j'estime que ce prototype a vraiment du potentiel et va suffisamment se distinguer des autres jeux, quoi. Donc, je m'auto-censure un peu plus qu'avant, quoi. Je me dis, ouais, ce jeu-là, moi, je l'aime bien, mais globalement, il n'est pas spécialement original ou il ressemble déjà à tel jeu. Donc, il y a vraiment un moment où avant, je l'aurais mené jusqu'au bout et tout. Et là où je me dis, non, bah, du coup, je suis pas sûr que ça soit très intéressant de le mener jusqu'au bout si c'est pour que ça soit un jeu parmi plein d'autres, quoi.
Justement, les jeux familiaux, c'est ce que tu as envie de faire aujourd'hui, je dirais même enfant, puisque tu as fait Kraken Attack avec ton fils.
Ouais, c'est clairement, hein, depuis que je suis papa, du coup, je faisais pas du tout de jeux enfants et j'en fais un peu plus, notamment parce que je joue plus en famille avec mon petit et des copains d'école, quoi. Donc, c'est forcément, ça me donne envie de faire des jeux à destination de ce public-là. Donc, effectivement, j'ai jamais fait des jeux très, très gamer, hein, mais, on va dire, j'ai plutôt tendance à aller encore un peu plus vers le public familial qu'avant, ouais.
Quand tu fais un jeu comme Seven Wonders, tu penses déjà aux extensions. Si on sait, Seven Wonders, il y en a énormément d'extensions. Est-ce que tu as pensé déjà à Architect que tu pourrais mettre des extensions ou pas du tout? C'est un jeu...
Alors pour le coup, ouais, j'ai une idée d'extension, mais clairement, j'ai commencé à la travailler quand on avait quand le jeu est sorti, quoi.
D'accord.
En fait, c'est plus, si tu veux, que pendant le développement, il y a un morceau qui a été enlevé du jeu, là, pour le coup.
D'accord.
C'est pas souvent comme ça que je procède. Mais là, à nouveau, comme on était sur un jeu qu'on voulait très accessible, on a coupé un morceau qui était un peu trop compliqué dans ce jeu-là, on a estimé. Et donc là, du coup, tu vas le proposer sous forme d'une extension quand les gens auront maîtrisé toutes les règles et joueront. Ça devient pertinent de éventuellement reproposer ce morceau. Après, je te dis ça, moi, je travaille dessus, l'éditeur a encore pas vu l'extension, donc on n'en est pas encore au projet très concret.
Parce que parmi les choses supprimées, on pense aussi aux guildes qui étaient présents dans Seven Wonders, et là, qu'on n'a pas du tout dans Architect.
Non, ça, c'est typiquement quelque chose qui a été dans le proto aussi, et qu'on n'a pas gardé parce que, pareil, ça demandait un corpus de règles supplémentaires qu'on voulait pas ajouter. Et à un moment, il y a eu des parties tests où j'étais expérimenté. Et ça s'est pas resté non plus. À nouveau, ce qui est très très dur, c'était de garder vraiment que les bons morceaux et tout en conservant l'expérience. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment faire des choix. Il y a des choses, on a dit ça on aime bien, mais soyons réalistes, nous on aime bien parce qu'on est aussi des gros gamers quand on est avec l'éditeur. Et globalement, quand on le fait jouer à des gens qui ont moins l'habitude, on voit que ça pose des soucis, donc on n'a pas gardé ça. Ouais.
Est-ce que dans les jeux que t'as fait, il y a un jeu qui pour toi n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir?
Ah, c'est une bonne question. Moi, dans les jeux qui m'ont déçu au niveau du succès, il y a notamment, je pense, le premier auquel je pense, en tout cas, c'est Oceanos, qui est sorti chez Yellow il y a quelques années, illustré par Jérémy Fleury, qui est un jeu, pareil, assez familial, auquel je croyais pas mal, et qui, ma foi, a pas eu un grand succès. Ça, c'est vraiment, j'avoue que c'est peut-être celui où je croyais qu'il pouvait quand même pas mal fonctionner. Et puis non, il a fait sa petite vie et il a été oublié très rapidement. Voilà, c'est le premier auquel je pense, à part ça, mais je vois pas.
À part ça, sinon tous les autres ont eu du succès, Antoine.
Non, pas tous, mais disons, les jeux qui ont eu du succès, on les connaît, puis après, les jeux qui n'ont pas eu de succès, parce que, objectivement, avec le recul, ils étaient moins bons, tu vois. Oceanos, j'avais vraiment l'impression d'avoir un truc qui était cool et prometteur, et puis finalement, il a eu ça. Enfin, ça n'a pas été un échec, mais il a fait son deuxième tirage, et puis tout le monde l'a oublié, et finalement... C'est peut-être moi qui ai mal analysé, qui pensais avoir un truc plus chouette que ce que c'était en réalité, quoi.
Alors, tu disais que tu sortais pas beaucoup de jeux, mais cette année, enfin cette fin d'année, il y en a quand même quelques-uns qui vont sortir. On pense à Oltre, qui va sortir là normalement, je crois, fin novembre, début décembre.
Qui doit arriver, c'est pareil, on est un peu dépendant des transports là. Ça devrait plus tarder. Oui, alors du coup, c'est un peu un hasard de calendrier, parce que Oltre, c'est pareil, c'est un jeu sur lequel j'ai bossé, j'ai dû commencer à bosser dessus il y a 6 ou 7 ans, je pense.
Ah oui, quand même.
Donc c'est un peu un hasard de calendrier s'il arrive là en fin d'année en même temps qu'Architect notamment. Mais c'est un jeu, qui a été long à développer, qui du coup a changé d'éditeur deux fois, si je dis pas de bêtises, parce que c'était un gros projet, parce qu'en plus c'est tiré d'un C'est tiré d'un jeu de rôle écrit par un copain, donc il y avait plusieurs. C'était un peu compliqué à mettre en place. Et puis c'est vraiment. Je sais pas si t'as vu passer la boîte et le matériel.
Mais alors j'ai pas encore vu, mais j'ai vu des photos. Jeu, ouais, c'est un gros jeu. Et là, on est sur un jeu narratif. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est un jeu donc coopératif dans un univers donc tiré d'un jeu de rôle écrit par un copain, un univers on va dire fantasy, mais pas. On est loin de Donjons et Dragons, quoi. Il n'y a pas des boules de feu et des monstres à tous les coins. c'est plus low fantasy, comme on dit. Et c'est un jeu coopératif, ouais, dans lequel il y a beaucoup de textes parce qu'on a un petit scénario qui se déroule et on a plein de mini-aventures qui s'appellent des péripéties qu'il faut lire sur des cartes et prendre une décision. Et le joueur qui.
Doit choisir, prendre une décision.
Voilà, ouais, exactement, ouais. Donc, c'est un jeu assez narratif, quoi. C'est une espèce de croisement entre un jeu de plateau et on va dire des ambiances un peu jeu de rôle où on a des aventures, quelqu'un nous raconte un bout d'aventure, il faut réagir à cette aventure là.
Et alors après Oltre, on aura Namiji, est-ce que c'est la suite de Tokaido?
Ouais, voilà, c'est un spin-off de Tokaido, pareil, qui a été en financement participatif il y a longtemps et qui a pris beaucoup de retard, notamment à cause de la situation sanitaire, mais pas que, ça a été compliqué à produire aussi. Et voilà, il se trouve que ça sort aussi, normalement, pour ceux qui ont participé au financement, ils espèrent livrer avant Noël.
D'accord.
Alors là, je prends des guillemets parce qu'à nouveau, on maîtrise pas complètement les délais en ce moment, mais voilà, c'est un projet qui a pris beaucoup de retard et il se trouve qu'il sort aussi en fin d'année, normalement, en même temps que les deux autres. Mais c'est vraiment une coïncidence
sur le calendrier, ouais. Et alors pourquoi Namiji est passé finalement en Kickstarter?
Alors ça c'est une volonté de l'éditeur, hein, Funforge, qui avait utilisé Kickstarter notamment pour la version collector de Tokaido, le premier jeu, quoi.
Ouais.
Et aussi parce que c'est un peu des maniaques de la production et de la petite figurine parfaitement peinte et tout, et donc du coup pour pouvoir produire des jeux comme ça, c'était important qu'ils aient des précommandes et les sous en avant, quoi.
On aura aussi une version boutique de Namiji?
Ouais, tout à fait. Donc l'idée c'est de livrer les backers. Là, les jeux normalement sont sortis de l'usine, hein, donc ça devrait plus tarder. Et il y aura une version boutique. Hein, ça c'est un truc que moi j'ai exigé. Voilà, j'ai rien contre les financements participatifs, mais je veux pas que les jeux soient uniquement réservés aux gens qui ont pu y participer. Donc il y aura une version boutique l'année prochaine qui sort dans toutes les crèmeries comme tout autre jeu, quoi.
Pour finir, est-ce que tu as d'autres projets? Alors, on pense à Arkeis, qui est un long projet avec tes potes.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, Arkeis, pareil, là, ils sont toujours chez Ankama, ils sont toujours le nez dans le guidon et ils font le maximum. On a relu des fichiers maquettés, des règles et tout, donc on est vraiment au bout. Là, c'est vraiment des contraintes de production, d'approvisionnement et qui sont toujours très compliquées. Mais pareil, je peux pas te donner de date, mais ça arrivera l'année prochaine. Voilà, ils espéraient avant Noël aussi, mais c'était pas tenable.
C'était pas jouable. Est-ce que t'as d'autres projets, on va dire, plutôt familial, enfant? Est-ce que tu vas refaire un jeu avec ton fils?
Écoute, c'est possible. Il est pas contre. On a discuté de 2-3 idées. Là, c'est bientôt les vacances scolaires, donc du coup, on va peut-être ressortir nos dossiers et nos pages de notes, donc pourquoi pas, c'est quelque chose je veux pas lui forcer la main, en fait.
Ouais.
Là sur le premier, c'était vraiment lui qui avait ses idées et tout, et on a vraiment travaillé ensemble, donc je veux pas lui imposer. Voilà, si ça part de lui et qu'on trouve une chouette idée, c'est clairement une expérience que je renouvellerai avec plaisir, en tout
cas. C'est quelque chose qui est possible, en tout cas.
Ouais, tout à fait. On s'est vraiment bien amusé sur ce premier jeu, donc s'il est partant, je suivrai sans souci, quoi.
Eh ben, merci beaucoup Antoine d'avoir été sur Millennium dans C'est Ludique pour nous parler de tes différents projets, et notamment de Seven Wonders Architect qui vient tout juste de sortir et puis qui va certainement cartonner pour Noël, hein. Y a pas à dire.
Eh ben, on espère, écoute, on croise les doigts en tout cas.
Merci Antoine, à bientôt.
Bonne journée,
salut. Au revoir.